Alain, propos sur le bonheur. 1. Bucéphale. Lorsqu'un petit enfant crie et ne veut pas être consolé, la nourrice fait souvent les plus ingénieuses suppositions concernant ce jeune caractère et ce qui lui plaît et déplaît. Appelant même l'hérédité au secours, elle reconnaît déjà le père dans le fils. Ses essais de psychologie se prolongent jusqu'à ce que la nourrice ait découvert l'épingle, cause réelle de tout. Lorsque Bucéphale, cheval illustre, fut présenté au jeune Alexandre, aucun écuyer ne pouvait se maintenir sur cet animal redoutable. Sur quoi, un homme vulgaire aurait dit « voilà un cheval méchant ». Alexandre, cependant, cherchait l'épingle et la trouva bientôt, remarquant que Bucéphale avait terriblement peur de sa propre ombre. Et comme la peur faisait sauter l'ombre aussi, cela n'avait point de fin. Mais il tourna le nez de Bucéphale vers le soleil et, le maintenant dans cette direction, il put le rassurer et le fatiguer. Ainsi, l'élève d'Aristote savait déjà que nous n'avons aucune puissance sur les passions tant que nous n'en connaissons pas les vraies causes. Bien des hommes ont réfuté la peur, et par forte raison. Mais celui qui a peur n'écoute point les raisons. Il écoute les battements de son cœur et les vagues du sang. Le pédant raisonne du danger à la peur. L'homme passionné raisonne de la peur au danger. Tous les deux veulent être raisonnables et tous les deux se trompent. Mais le pédant se trompe deux fois. Il ignore la vraie cause et il ne comprend pas l'erreur de l'autre. Un homme qui a peur invente quelques dangers afin d'expliquer cette peur réelle et amplement constatée. Or, la moindre surprise fait peur, sans aucun danger. Par exemple, un coup de pistolet fort près et que l'on n'attend point. Ou seulement la présence de quelqu'un que l'on n'attend point. Masséna eut peur d'une statue dans un escalier mal éclairé et s'enfuit à toutes jambes. L'impatience d'un homme et son humeur viennent quelquefois de ce qu'il est resté trop longtemps debout. Ne raisonnez point contre son humeur, mais offrez-lui un siège. Talleyrand, disant que les manières sont tout, a dit plus qu'il ne croyait dire. Par le souci de ne pas incommoder, il cherchait l'épingle et finissait par la trouver. Tous ces diplomates, présentement, ont quelque épingle mal placée dans leur maillot. D'où les complications européennes. Et chacun sait qu'un enfant qui crie fait crier les autres. Bien pis, l'on crie de crier. Les nourrices, par un mouvement qui est de métier, mettent l'enfant sur le ventre. Ce sont d'autres mouvements aussitôt et un autre régime. Voilà un art de persuader qui ne vise point trop haut. Les mots de l'an 14 vinrent à ce que je crois, de ce que les hommes importants furent tous surpris, d'où ils eurent peur. Quand un homme a peur, la colère n'est pas loin, l'irritation suit l'excitation. Ce n'est pas une circonstance favorable lorsqu'un homme est brusquement rappelé de son loisir et de son repos. Il se change souvent et se change trop. Comme un homme réveillé par surprise, il se réveille trop. Mais ne dites jamais que les hommes sont méchants. Ne dites jamais qu'ils ont tel caractère. Cherchez l'épingle. 8 décembre 1922. 2. Irritation. Quand on avale de travers, il se produit un grand tumulte dans le corps, comme si un danger imminent était annoncé à toutes les parties. Chacun des muscles tire à sa manière. Le cœur s'en mêle. C'est une espèce de convulsion. Qu'y faire? Pouvons-nous ne pas suivre et ne pas subir toutes ces réactions? Voilà ce que dira le philosophe, parce que c'est un homme sans expérience. Mais un professeur de gymnastique ou d'escrime rirait bien si l'élève disait « c'est plus fort que moi, je n'ai pu m'empêcher de me raidir et de tirer de tous mes muscles en même temps ». J'ai connu un homme dur qui, après avoir demandé si l'on permettait, vous fouettait vivement de son fleuret afin d'ouvrir les chemins à la raison. C'est un fait assez connu que celui-ci. Les muscles suivent naturellement la pensée comme des chiens dociles. Je pense à allonger le bras et je l'allonge aussitôt. La cause principale de ces crispations ou séditions auxquelles je pensais tout à l'heure, c'est justement qu'on ne sait point ce qu'il faudrait faire. Et dans notre exemple, ce qu'il faut faire, c'est justement assouplir tout le corps, et notamment, au lieu d'aspirer avec force, ce qui aggrave le désordre, expulser au contraire la petite parcelle de liquide qui s'est introduite dans la mauvaise voie. Cela revient, en d'autres mots, à chasser la peur, qui, dans ce cas-là comme dans les autres, est entièrement nuisible. Pour la toux dans le rhume, il existe une discipline du même genre, trop peu pratiquée. La plupart des gens toussent comme ils se grattent, avec une espèce de fureur dont ils sont les victimes. De là, des crises qui fatiguent et irritent. Contre quoi les médecins ont trouvé les pastilles, dont je crois bien que l'action principale est de nous donner à avaler. Avaler est une puissante réaction, moins volontaire encore que la toux, encore plus au-dessous de nos prises. Cette convulsion d'avaler rend impossible cette autre convulsion qui nous fait tousser. C'est toujours retourner le nourrisson. Mais je crois que si l'on arrêtait au premier moment ce qu'il y a de tragédie dans la toux, on se passerait des pastilles. Si, sans opinion aucune, l'on restait souple et imperturbable au commencement, la première irritation serait bientôt passée. Ce mot « irritation » doit faire réfléchir. Par la sagesse du langage, il convient aussi pour désigner la plus violente des passions. Et je ne vois pas beaucoup de différence entre un homme qui s'abandonne à la colère et un homme qui se livre à une quinte de toux. De même, la peur est une angoisse du corps, contre laquelle on ne sait point toujours lutter par gymnastique. La faute, dans tous ces cas-là, c'est de mettre sa pensée au service des passions, et de se jeter dans la peur ou dans la colère avec une espèce d'enthousiasme farouche. En somme, nous aggravons la maladie par les passions. Telle est la destinée de ceux qui n'ont pas appris la vraie gymnastique. Et la vraie gymnastique, comme les Grecs l'avaient compris, c'est l'empire de la droite raison sur les mouvements du corps. Non pas sur tous, c'est bien entendu, mais il s'agit seulement de ne pas gêner les réactions naturelles par des mouvements de fureur. Et selon mon opinion, voilà ce qu'il faudrait apprendre aux enfants, en leur proposant toujours pour modèle les plus belles statues, objets véritables du culte humain. 5 décembre 1912. Marie triste. Il n'est pas inutile de réfléchir sur les folies circulaires, et notamment sur cette Marie triste et Marie joyeuse qu'un de nos professeurs de psychologie a heureusement trouvé dans sa clinique. L'histoire, déjà trop oubliée, est bonne à conserver. Cette fille était gaie une semaine et triste l'autre, avec la régularité d'une horloge. Quand elle était gaie, tout marchait bien. Elle aimait la pluie comme le soleil. Les moindres marques d'amitié la jetaient dans le ravissement. Si elle pensait à quelque amour, elle disait « Quelle bonne chance pour moi !» Elle ne s'ennuyait jamais. Ses moindres pensées avaient une couleur réjouissante, comme de belles fleurs bien saines, qui plaisent toutes. Elle était dans l'état que je vous souhaite, mes amis. Car toute cruche, comme dit le sage, a deux anses. Et de même, tout événement a deux aspects. Toujours accablant si l'on veut, toujours réconfortant et consolant si l'on veut. Et l'effort qu'on fait pour être heureux n'est jamais perdu. Mais après une semaine, tout changeait de ton. Elle tombait à une langueur désespérée. Rien ne l'intéressait plus. Son regard fanait toute chose. Elle ne croyait plus au bonheur. Elle ne croyait plus à l'affection. Personne ne l'avait jamais aimée et les gens avaient bien raison. Elle se jugeait sotte et ennuyeuse. Elle aggravait le mal en y pensant. Elle le savait. Elle se tuait en détail avec une espèce d'horrible méthode. Elle disait « Vous voulez me faire croire que vous vous intéressez à moi, mais je ne suis point dupe de vos comédies. » Un compliment, c'était pour se moquer. Un bienfait pour l'humilier. Un secret, c'était un complot bien noir. Ces mots d'imagination sont sans remède, en ce sens que les meilleurs événements sourient en vain à l'homme malheureux. Et il y a plus de volonté qu'on ne croit dans le bonheur. Mais le professeur de psychologie allait découvrir une leçon plus rude encore, une plus redoutable épreuve pour l'âme courageuse. Parmi un grand nombre d'observations et de mesures au cours de ces courtes saisons humaines, il en vint à compter les globules du sang par centimètre cube. Et la loi fut manifeste. Vers la fin d'une période de joie, les globules se raréfiaient. Vers la fin d'une période de tristesse, ils recommençaient à foisonner. Pauvreté et richesse du sang, telle était la cause de toute cette fantasmagorie d'imagination. Ainsi, le médecin était en mesure de répondre à ces discours passionnés. Consolez-vous, vous serez heureuse demain. Mais elle n'en voulait rien croire. Un ami qui veut se croire triste dans le fond me disait là-dessus. Quoi de plus clair? Nous n'y pouvons rien. Je ne puis me donner des globules par réflexion. Ainsi, toute philosophie est vaine. Ce grand univers nous apportera la joie ou la tristesse selon ses lois, comme l'hiver et l'été, comme la pluie et le soleil. Mon désir d'être heureux ne compte pas plus que mon désir de promenade. Je ne fais pas la pluie sur cette vallée. Je ne fais pas la mélancolie en moi. Je la subis, et je sais que je la subis. Belle consolation. Ce n'est pas si simple. Il est clair qu'à remâcher des jugements sévères, des prédictions sinistres, des souvenirs noirs, on se présente sa propre tristesse. On la déguste en quelque sorte. Mais si je sais bien qu'il y a des globules là-dessous, je ris de mes raisonnements. Je repousse la tristesse dans le corps, où elle n'est plus que fatigue ou maladie, sans aucun ornement. On supporte mieux un mal d'estomac qu'une trahison. Et n'est-il pas mieux de dire que les globules manquent, au lieu de dire que les vrais amis manquent? Le passionné repousse à la fois les raisons et le bromure. N'est-il pas remarquable que, par cette méthode que je dis, on ouvre en même temps la porte aux deux remèdes. 18 août 2019. 1913. 4. Neurasthénie. Par ces temps de giboulée, l'humeur des hommes et celle des femmes aussi change comme le ciel. Un ami fort instruit et assez raisonnable me disait hier: je ne suis pas content de moi. Dès que je ne suis plus occupé à mes affaires ou au bridge, je tourne dans ma tête mille petits motifs qui me font passer de joie à tristesse et de tristesse à joie par mille nuances, plus vite que ne change la gorge des pigeons. Ces motifs, comme une lettre à écrire ou un tramway manqué ou un pardessus trop lourd, prennent une importance extraordinaire, comme pourraient faire des malheurs réels. En vain je raisonne, et je me prouve que tout cela doit m'être indifférent. Mes raisons ne sonnent pas plus en moi que des tambours mouillés. Et, en un mot, je me sens neurasthénique un peu. Laissez, lui dis-je, les grands mots, et essayez de comprendre les choses. Votre état est celui de tout le monde. Seulement, vous avez le malheur d'être intelligent, de trop penser à vous, et de vouloir comprendre pourquoi vous êtes tantôt joyeux, tantôt triste. Et vous vous irritez contre vous-même, parce que votre joie et votre tristesse s'expliquent mal par les motifs que vous connaissez. En réalité, les motifs qu'on a d'être heureux ou malheureux sont sans poids. Tout dépend de notre corps et de ses fonctions. Et l'organisme le plus robuste passe chaque jour de la tension à la dépression, de la dépression à la tension, et bien des fois, selon les repas, les marches, les efforts d'attention, la lecture et le temps qu'il fait. Votre humeur monte et descend là-dessus, comme le bateau sur les vagues. Ce ne sont pour l'ordinaire que des nuances dans le gris. Tant que l'on est occupé, on n'y pense point. Mais dès qu'on a le temps d'y penser, et que l'on y pense avec application, les petites raisons viennent en foule, et vous croyez qu'elles sont causes, alors qu'elles sont effets. Un esprit subtil trouve toujours assez de raisons d'être triste s'il est triste, assez de raisons d'être gai s'il est gai. La même raison, souvent, sert à deux fins. Pascal, qui souffrait dans son corps, était effrayé par la multitude des étoiles. Et le frisson auguste qu'il éprouvait en les regardant venait sans doute de ce qu'il prenait froid à sa fenêtre sans s'en apercevoir. Un autre poète, s'il est bien portant, parlera aux étoiles comme à des amis, et tous deux diront de fort belles choses sur le ciel étoilé, de fort belles choses à côté de la question. Spinoza dit qu'il ne se peut pas que l'homme n'ait pas de passion, mais que le sage forme en son âme une telle étendue de pensées heureuses que ses passions sont toutes petites à côté. Sans le suivre en ses chemins difficiles, on peut pourtant, à son image, se faire un grand volume de bonheur voulu, comme musique, peinture, conversation, qui feront par comparaison toutes petites nos mélancolies. L'homme de société oublie son foie à de petits devoirs. Nous devrions rougir de ne point tirer un meilleur parti encore de notre sérieux et utile métier, ni de nos livres, ni de nos amis. Mais peut-être est-ce une erreur commune et de grandes conséquences de ne point s'intéresser, selon une règle, aux choses qui ont valeur. Nous comptons sur elle. C'est un grand art, quelquefois, de vouloir ce que l'on est assuré de désirer. 22 février 1908. 5. Mélancolie. Il y a quelque temps, je voyais un ami qui souffrait d'un caillot dans le rein et qui était d'humeur assez sombre. Chacun sait que ce genre de maladie rend triste. Comme je le lui disais, il en tomba d'accord. D'où je conclus enfin. Puisque vous savez que cette maladie rend triste, vous ne devez point vous étonner d'être triste, ni en prendre de l'humeur. Ce beau raisonnement le fit rire de bon cœur, ce qui n'était pas un petit résultat. Il n'en est pas moins vrai que, sous cette forme un peu ridicule, je disais une chose d'importance et trop rarement considérée par ceux qui ont des malheurs. La profonde tristesse résulte toujours d'un état maladif du corps. Tant qu'un chagrin n'est pas maladie, il nous laisse bientôt des instants de paix, et bien plus que nous ne croyons. Et la pensée même d'un malheur étonne plutôt qu'elle n'afflige, tant que la fatigue ou quelques cailloux logés quelque part ne vient pas aggraver nos pensées. La plupart des hommes nient cela et soutiennent que ce qui les fait souffrir dans le malheur, c'est la pensée même de leur malheur. Et j'avoue que lorsqu'on est malheureux soi-même, il est bien difficile de ne pas croire que certaines images ont comme des griffes et des piquants, et nous torturent par elles-mêmes. Considérons pourtant les malades que l'on appelle mélancoliques. Nous verrons qu'ils savent trouver, en n'importe quelle pensée, des raisons d'être tristes. Toute parole les blesse. Si vous les plaignez, ils se sentent humiliés et malheureux, sans remède. Si vous ne les plaignez pas, ils se disent qu'ils n'ont plus d'amis et qu'ils sont seuls au monde. Ainsi, cette agitation des pensées ne sert qu'à rappeler leur attention sur l'état désagréable où la maladie les tient. Et, dans le moment où ils argumentent contre eux-mêmes et sont écrasés par les raisons qu'ils croient avoir d'être tristes, ils ne font que remâcher leur tristesse en vrais gourmets. Or, les mélancoliques nous offrent une image grossie de tout homme affligé. Ce qui est évident chez eux, que leur tristesse est maladie, doit être vrai chez tous. L'exaspération des peines vient sans doute de tous les raisonnements que nous y mettons et par lesquels nous nous tâtons, en quelque sorte, à l'endroit sensible. De cette espèce de folie qui porte les passions jusqu'à la rage, on peut se délivrer en se disant, justement, que tristesse n'est que maladie et doit être supportée comme maladie, sans tant de raisonnement et de raison. Par là, on disperse le cortège des discours acides. On prend son chagrin comme un mal de ventre. On arrive à une mélancolie muette, à une espèce de stupeur, presque sans conscience. On n'accuse plus, on supporte. Cependant, on se repose. Et ainsi, on combat la tristesse justement comme il fallait. C'est à quoi tendait la prière, et ce n'était pas mal trouvé. Devant l'immensité de l'objet, devant cette sagesse qui sait tout et qui a tout pesé, devant cette majesté incompréhensible, devant cette justice impénétrable, l'homme pieux renonçait à former des pensées. Il n'y a certainement point de prière faite de bonne volonté qui n'ait aussitôt obtenu beaucoup. Vaincre fureur, c'est beaucoup. Mais on arrive aussi, par bon sens, à se donner cette espèce d'opium d'imagination qui nous détourne de compter nos malheurs. 6 février 1911. 6. Des passions. On supporte moins aisément la passion que la maladie, dont la cause est sans doute en ceci, que notre passion nous paraît résulter entièrement de notre caractère et de nos idées, mais porte avec cela les signes d'une nécessité invincible. quand une blessure physique nous fait souffrir. Nous y reconnaissons la marque de la nécessité qui nous entoure. Et tout est bien en nous, sauf la souffrance. Lorsqu'un objet présent, par son aspect ou par le bruit qu'il fait, ou par son odeur, provoque en nous de vifs mouvements de peur ou de désir, nous pouvons encore bien accuser les choses et les fuir, afin de nous remettre en équilibre. Mais pour la passion, nous n'avons aucune espérance, car si j'aime ou si je hais, il n'est pas nécessaire que l'objet soit devant mes yeux. Je l'imagine et même je le change par un travail intérieur qui est comme une poésie. Tout m'y ramène. Mes raisonnements sont sophistiques et me paraissent bons. Et c'est souvent la lucidité de l'intelligence qui me pique au bon endroit. On ne souffre pas autant par les émotions. Une belle peur vous jette dans la fuite, et vous ne pensez guère alors à vous-même. Mais la honte d'avoir eu peur, si l'on vous fait honte, se tournera en colère ou en discours. Surtout votre honte à vos propres yeux, quand vous êtes seul, et principalement la nuit, dans le repos forcé. Voilà qui est insupportable, parce qu'alors vous la goûtez, si l'on peut dire, à loisir et sans espérance. Toutes les flèches sont lancées par vous et reviennent sur vous. C'est vous qui êtes votre ennemi. Quand le passionné s'est assuré qu'il n'est pas malade et que rien ne l'empêche, pour l'instant, de vivre bien, il en vient à cette réflexion. Ma passion, c'est moi, et c'est plus fort que moi. Il y a toujours du remords et de l'épouvante dans la passion. Et, par raison, il me semble, car on se dit « Devrais-je me gouverner si mal ? Devrais-je ressasser ainsi les mêmes choses ?» De là une humiliation, mais une épouvante aussi, car on se dit « C'est ma pensée même qui est empoisonnée. Mes propres raisonnements sont contre moi. Quel est ce pouvoir magique qui conduit ma pensée ?» Magie est ici à sa place. Je crois que c'est la force des passions et l'esclavage intérieur qui ont conduit les hommes à l'idée d'un pouvoir occulte et d'un mauvais sort jeté par un mot ou par un regard. Faute de pouvoir se juger malade, le passionné se juge maudit. Et cette idée lui fournit des développements sans fin pour se torturer lui-même. Qui rendra compte de ces vives souffrances qui ne sont nulle part? Et la perspective d'un supplice sans fin, et qui s'aggrave même de minute en minute, fait qu'il court à la mort avec joie. Beaucoup ont écrit là-dessus, et les stoïciens nous ont laissé de beaux raisonnements contre la crainte et contre la colère. Mais Descartes est le premier, et il s'en vante, qui est visé droit au but dans son traité des passions. Il a fait voir que la passion, quoi qu'elle soit toute dans un état de nos pensées, dépend néanmoins des mouvements qui se font dans notre corps. C'est par le mouvement du sang et par la course dont on ne sait quel fluide qui voyage dans les nerfs et le cerveau que les mêmes idées nous reviennent et s'y vivent dans le silence de la nuit. Cette agitation physique nous échappe communément. Nous n'en voyons que les effets. Ou bien encore, nous croyons qu'elle résulte de la passion. Alors qu'au contraire, c'est le mouvement corporel qui nourrit les passions. Si l'on comprenait bien cela, on s'épargnerait tout jugement de réflexion, soit sur les rêves, soit sur les passions qui sont des rêves mieux liés. On y reconnaîtrait la nécessité extérieure à laquelle nous sommes tous soumis, au lieu de s'accuser soi-même et de se maudire soi-même. On se dirait « Je suis triste, je vois tout noir, mais les événements n'y sont pour rien. Mes raisonnements n'y sont pour rien. C'est mon corps qui veut raisonner. Ce sont des opinions d'estomac. » 9 mai 1911. 7. Crainte et maladie. Je me souviens d'un canonnier qui lisait dans les mains. Il était bûcheron de son métier et formé par cette vie sauvage à l'interprétation immédiate des signes. Je suppose qu'à l'imitation de quelque autre sorcier, il s'était mis à observer aussi le creux des mains, et c'était là qu'il lisait la pensée, comme nous faisons tous, dans le regard et dans les plis du visage. Au bois des Clairechênes, à la lueur d'une bougie, il retrouvait son temple et sa majesté, disant au sujet des caractères des choses souvent justes et toujours mesurés, annonçant aussi l'avenir prochain et l'avenir lointain de chacun, choses qui ne font point rire. Et j'ai occasion de remarquer, dans la suite, qu'une de ses prédictions se trouva vérifiée. En quoi, sans doute, j'ajoutais quelque chose au souvenir, car il m'était agréable de retrouver la prédiction dans l'événement. Ce jeu de l'imagination m'avertit une fois de plus et me confirma dans la prudence que j'ai toujours suivie, car je n'ai montré les lignes de ma main ni à lui ni à aucun autre. Toute la force de l'incrédulité est en ceci qu'on ne veut point consulter l'oracle. Dès qu'on le consulte, il faut y croire un peu. Aussi, la fin des oracles qui marque la révolution chrétienne n'est-elle pas un petit événement? Thalès, Bias, Démocrite et les autres vieillards fameux des temps anciens avaient sans doute une tension artérielle peu satisfaisante dans le temps où ils commençaient à perdre leurs cheveux. Mais ils n'en savaient rien. Ce n'était pas un petit avantage. Les solitaires de la Thébaïde se trouvaient encore mieux placés. Comme ils espéraient la mort au lieu de la craindre, ils vivaient très longtemps. Si l'on étudiait physiologiquement et de très près l'inquiétude et la crainte, on verrait que ce sont des maladies qui s'ajoutent aux autres et en précipitent le cours, en sorte que celui qui sait qu'il est malade et qui le sait d'avance, d'après l'oracle médecin, se trouve deux fois malade. Je vois bien que la crainte nous conduit à combattre la maladie par le régime et les remèdes. Mais quel régime et quel remède nous guérirons de craindre? Le vertige qui nous prend sur les hauteurs est une maladie véritable, qui vient de ce que nous mimons la chute et les mouvements désespérés d'un homme qui tombe. Ce mal est tout d'imagination, la colique du candidat de même. Ainsi, la crainte de répondre mal agit aussi énergiquement que l'huile de ricin. Mesurez d'après cela les effets d'une crainte continuelle. Mais pour se rendre prudent à l'égard de la prudence, il faut arriver à considérer ceci, que les mouvements de la crainte vont naturellement à aggraver le mal. Celui qui craint de ne pas dormir est mal disposé pour dormir, et celui qui craint son estomac est mal disposé pour digérer. Il faudrait donc mimer la santé plutôt que la maladie. Cette gymnastique n'est pas connu dans ses détails, mais on peut parier que les gestes de la politesse et de la bienveillance se rapportent à la santé d'après cette sorte de théorème selon lequel les signes de la santé ne sont autres que les mouvements conformes à la santé. Les mauvais médecins seraient donc ceux qu'on aime assez pour vouloir les intéresser à ses propres maux. Et les bons médecins sont ceux, au contraire, qui vous demandent selon l'usage « Comment allez-vous ?» et qui n'écoutent pas la réponse. 5 mars 1922. 8. De l'imagination. Lorsque le médecin vous recoue la peau du visage à la suite de quelque petit accident, il y a, parmi les accessoires, un verre de rhum propre à ranimer le courage défaillant. Or, communément, ce n'est point le patient qui boit le verre de rhum, mais c'est l'ami spectateur qui, sans en être averti par ses propres pensées, tourne au blanc verdâtre et perdrait le sentiment. Ce qui fait voir, contre le moraliste, que nous n'avons pas toujours assez de force pour supporter les maux d'autrui. Cet exemple est bon à considérer parce qu'il fait voir un genre de pitié qui ne dépend point de nos opinions. Directement, la vue de ces gouttes de sang et de cette peau qui résiste à l'aiguille courbe produit une sorte d'horreur diffuse, comme si nous retenions notre propre sang, comme si nous durcissions notre propre peau. Cet effet d'imagination est invincible à la pensée parce que l'imagination est ici sans pensée. Le raisonnement de la sagesse serait évident et bien facile à suivre, car ce n'est pas la peau du spectateur qui est entamée. Mais ce raisonnement n'a aucune action sur l'événement. Le rhum persuade mieux. D'où je comprends que nos semblables ont grande puissance sur nous par leur présence seule, par les seuls signes de leurs émotions et de leurs passions. La pitié, la terreur, la colère, les larmes n'attendent point que je m'intéresse d'esprit à ce que je vois. La vue d'une blessure horrible change le visage du spectateur, et ce visage, à son tour, annonce l'horrible, et touche au diaphragme le spectateur du spectateur avant qu'il sache ce que l'autre voit. Et la description, quelque talent qu'on y emploie, c'est moins émouvoir que ce visage ému. La touche de l'expression est directe et immédiate. Aussi, c'est très mal d'écrire la pitié si l'on dit que celui qui l'éprouve pense à lui-même et se voit à la place de l'autre. Cette réflexion, quand elle vient, ne vient qu'après la pitié. Par l'imitation du semblable, le corps se dispose aussitôt selon la souffrance, ce qui fait une anxiété d'abord sans nom. L'homme se demande compte à lui-même de ce mouvement du cœur qui lui vient comme une maladie. On pourrait bien aussi expliquer le vertige par un raisonnement. L'homme devant le gouffre se dirait qu'il peut y tomber. Mais s'il tient le garde-fou, il se dit au contraire qu'il ne peut y tomber. Le vertige ne le parcourt pas moins des talons à la nuque. Le premier effet de l'imagination est toujours dans le corps. J'ai entendu le récit d'un rêve où le rêveur était en présence d'une exécution capitale imminente, sans qu'il sût si c'était de lui ou d'un autre, et sans même qu'il formât une opinion exprimable là-dessus. Seulement, il sentait une douleur aux vertèbres crâniennes. Telle est la pure imagination. L'âme séparée, que l'on veut toujours supposer généreuse et sensible, serait au contraire, il me semble, toujours économe de son intérêt. Le corps vivant est plus beau qui souffre par l'idée et qui se guérit par l'action. Non sans tumulte, mais aussi la vraie pensée a autre chose à surmonter qu'une difficulté de logique. Et c'est un reste de tumulte qui fait les pensées belles. La métaphore est la part du corps humain dans ce jeu héroïque. 20 février 1923. 9. Mots d'esprit. L'imagination est pire qu'un bourreau chinois. Elle dose la peur. Elle nous la fait goûter en gourmet. Une catastrophe réelle ne frappe pas deux fois au même point. Le coup écrase la victime. L'instant d'avant, elle était comme nous sommes quand nous ne pensons point à la catastrophe. Un promeneur est atteint par une automobile, lancé à 20 mètres et tué net. Le drame est fini. Il n'a point commencé, il n'a point duré. C'est par réflexion que naît la durée. Aussi, moi, qui pense à l'accident, j'en juge très mal. J'en juge comme un homme qui, toujours sur le point d'être écrasé, ne le serait jamais. J'imagine cette auto qui arrive. Dans le fait, je me sauverais si je percevais une telle chose. Mais je ne me sauve pas parce que je me mets à la place de celui qui a été écrasé. Je me donne comme une vue cinématographique de mon propre écrasement, mais une vue ralentie et même arrêtée de temps en temps. Et je recommence, je meurs mille fois et tout vivant. Pascal disait que la maladie est insupportable pour celui qui se porte bien, justement parce qu'il se porte bien. Une maladie grave nous accable sans doute assez pour que nous n'en sentions plus enfin que l'action présente. Un fait a cela de bon, si mauvais qu'il soit, qu'il met fin au jeu des possibles, qu'il n'est plus à venir, et qu'il nous montre un avenir nouveau avec des couleurs nouvelles. Un homme qui souffre espère, comme un bonheur merveilleux. Un état médiocre qui, la veille, aurait fait son malheur, peut-être. Nous sommes plus sages que nous ne croyons. Les mots réels vont vite, comme le bourreau va chez nous. Il coupe les cheveux, échancre la chemise, lie les bras, pousse l'homme. Cela me paraît long parce que j'y pense, parce que j'y reviens, parce que j'essaie d'entendre ce bruit des ciseaux, de sentir la main des aides sur mon bras. Dans le fait, une impression chasse l'autre, et les pensées réelles du condamné sont des frissons sans doute, comme les tronçons d'un ver. Nous voulons que le ver souffre d'être coupé en morceaux. Mais dans quel morceau sera la souffrance du ver? On souffre de retrouver un vieillard revenu à l'enfance, ou un ivrogne hébété qui nous montre le tombeau d'un ami. On souffre parce que l'on veut qu'ils soient en même temps ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont plus. Mais la nature a fait son chemin. Ses pas sont heureusement irréparables. Chaque état nouveau rendait possible le suivant. Toute cette détresse que vous ramassez en un point est égrenée sur la route du temps. C'est le malheur de cet instant qui va porter l'instant suivant. Un homme vieux, ce n'est pas un homme jeune qui souffre de la vieillesse. Un homme qui meurt, ce n'est pas un vivant qui meurt. C'est pourquoi il n'y a que les vivants qui soient atteints par la mort, que les heureux qui conçoivent le poids de l'infortune. Et, pour tout dire, on peut être plus sensible aux mots d'autrui qu'à ses propres mots, et sans hypocrisie. De là, un faux jugement sur la vie qui empoisonne la vie si l'on y prend garde. Il faut penser le réel présent de toutes ses forces, par science vraie, au lieu de jouer la tragédie. 12 décembre 1910. 10. Argan. De très petites causes peuvent gâter une belle journée, par exemple un soulier qui blesse. Rien ne peut plaire alors, et le jugement en est hébété. Le remède est simple, tout ce malheur s'enlève comme un vêtement. Nous le savons bien. Et ces malheurs sont rendus légers, même dans le présent, par la connaissance des causes. Le nourrisson, qui sent la pointe d'une épingle, hurle, comme s'il était malade au plus profond. C'est qu'il n'a pas idée de la cause ni du remède. Et quelquefois même il se fait mal à force de crier et n'en crie que plus fort. Voilà ce que l'on doit nommer un mal imaginaire. Car les mots imaginaires sont aussi réels que les autres. Ils sont seulement imaginaires en ceci que nous les entretenons par nos propres mouvements en même temps que nous en accusons les choses extérieures. Il n'y a pas que les nourrissons qui s'irritent de crier. On dit souvent que la mauvaise humeur est une maladie et qu'on n'y peut rien. C'est pourquoi je rappelle d'abord des exemples de souffrance et d'irritation qu'un mouvement très simple peut aussitôt supprimer. On sait qu'une crampe au mollet ferait crier l'homme le plus ferme, mais appuyez le pied bien à plat sur le sol et vous êtes guéri en un instant. Pour un moucheron ou un charbon dans l'œil, si vous vous frottez, c'est un ennui de 2 ou 3 heures. Mais tenez seulement vos 2 mains immobiles et regardez la pointe de votre nez. Aussitôt, le courant des larmes vous délivre. Et depuis que j'ai appris ce remède si simple, j'en ai fait plus de 20 fois l'expérience. Preuve qu'il est sage de ne pas d'abord accuser les êtres et choses autour de nous et de prendre garde premièrement à nous-mêmes. On croit observer quelquefois chez les autres une certaine prédilection pour le malheur, et cela se voit grossi dans un certain genre de fou, d'où l'on pourrait bien inventer quelques sentiments mystiques, en même temps et diaboliques. C'est être dupe de l'imagination. Il n'y a point tant de profondeur dans un homme qui se gratte, et nullement un appétit de douleur, mais plutôt une agitation et irritation qui s'entretiennent d'elles-mêmes par l'ignorance des causes. La peur qu'on a de tomber de cheval résulte de mouvements gauches et tumultueux par lesquels nous croyons nous sauver de chute. Et le pire est que ces mouvements font peur au cheval. D'où je conclurai, à la manière cite, que lorsqu'un homme sait monter à cheval, il a toute la sagesse ou presque. Il y a même un art de tomber, étonnant dans l'ivrogne, parce qu'il ne pense point du tout à bien tomber. Admirable dans le pompier, parce qu'il a appris par gymnastique à tomber sans craindre. Un sourire nous semble peu de chose et sans effet sur l'humeur. Aussi ne l'essayons-nous point. Mais la politesse, souvent, en nous tirant un sourire et la grâce d'un salut, nous change tout. Le physiologiste en sait bien la raison, car le sourire descend aussi profond que le bâillement et de proche en proche délie la gorge, les poumons et le cœur. Le médecin ne trouverait pas dans sa boîte à remèdes de quoi agir si promptement, si harmonieusement. L'imagination ici nous tire de peine par un soulagement qui n'est pas moins réel que les maux qu'elle cause. Au reste, celui qui veut faire l'insouciant sait bien hausser les épaules, ce qui, à bien regarder, aère les poumons et calme le cœur dans tous les sens du mot. Car ce mot a plusieurs sens, mais il n'y a qu'un cœur. 11 septembre 1923. 11. Médecine. Je connais, dit l'homme de science, un nombre important de vérités, et je forme une idée suffisante de celles que j'ignore. Je sais ce que c'est qu'une machine, et comment il arrive qu'un écrou sautant détruit tout, faute d'un peu de soin, faute d'une attention de quelques minutes, et toujours parce que l'homme de l'art n'a pas été consulté en temps opportun. C'est pourquoi je réserve une part de mon temps pour la surveillance de cette machine composée que j'appelle mon corps. C'est pourquoi, dès qu'il y a symptômes de frottement ou grincement, je me livre à l'homme de l'art pour qu'il explore la partie malade ou supposée telle. Et par ses soins, selon les avertissements de l'illustre Descartes, je suis rassuré. Les coups du sort mis à part, de prolonger ma vie autant que le comporte l'instrument que j'ai reçu de mes pères. Et voilà ma sagesse. Il parlait ainsi, mais il vivait tristement. Je connais, dit le liseur, un nombre important d'idées fausses qui compliquèrent la vie des hommes dans les temps de crédulité. Ces erreurs m'ont instruit de vérités importantes dont nos savants se font une faible idée. L'imagination, d'après ce que j'ai lu, est la reine de ce monde humain. Et le grand Descartes, dans son traité des passions, m'en a assez expliqué les causes. Car il ne se peut point qu'une inquiétude, même si j'arrive à la surmonter, n'enflamme point mes entrailles. Il ne se peut point qu'une surprise ne change pas les battements de mon cœur. Et l'idée seule d'un ver de terre trouvé dans la salade me donne une réelle nausée. Toutes ces folles idées, quand je n'y croirai point, m'empoignent au fond de moi-même et dans les parties vitales, et modifient brusquement le cours du sang et des humeurs, ce que ma volonté ne saurait point faire. Eh bien, quels que soient les invisibles ennemis que j'avale à chaque bouchée, ils ne peuvent pas plus sur mon cœur ni sur mon estomac que les changements de mon humeur ou les rêveries de mon imagination. Il est nécessaire, premièrement, que je me tienne content autant que je puis. Il est nécessaire, secondement, que j'écarte ce genre de souci qui a pour objet mon corps même et qui a pour effet certain de troubler toutes les fonctions vitales. Car ne voit-on pas dans l'histoire de tous les peuples des hommes qui sont morts parce qu'ils se croyaient maudits? Ne voit-on pas que les envoûtements réussissaient très bien si seulement le principal intéressé en était averti? Or, que peut faire le meilleur médecin sinon m'envoûter moi-même? Et quel bien puis-je attendre de ces pilules quand une seule parole de lui change les battements de mon cœur? Je ne sais pas trop ce que je puis espérer de la médecine, mais je sais très bien ce que j'en puis craindre. Et, ma foi, quelque dérangement que je sente dans cette machine que j'appelle moi, je me console encore le mieux par l'idée que c'est mon attention même et mon souci même qui fait presque tout le désordre, et que le premier et le plus sûr remède est donc de ne pas plus redouter un mal d'estomac ou un mal de rein qu'un corps aux pieds. Qu'un peu d'épiderme durci puisse faire souffrir autant, n'est-ce pas une bonne leçon de patience? 23 mars 1922. 12. Le sourire. Je voudrais dire de la mauvaise humeur qu'elle n'est pas moins cause qu'effet. Je serais même portée à croire que la plupart de nos maladies résultent d'un oubli de la politesse, j'entends d'une violence du corps humain sur lui-même. Mon père, qui par son métier observait les animaux, disait que, soumis pourtant aux mêmes conditions et autant portés que nous à abuser, ils ont bien moins de maladies, et il s'en étonnait. C'est que les animaux n'ont point d'humeur. J'entends cette irritation, ou bien cette fatigue, ou bien cet ennui qui sont entretenus par la pensée. Par exemple, chacun sait que notre pensée se scandalise de ne dormir point quand elle voudrait, et par cette inquiétude se met justement dans le cas de ne pouvoir dormir. Ou bien, d'autres fois, craignant le pire, elle ranime par ses mauvaises rêveries un état d'anxiété qui éloigne la guérison. Il ne faut que la vue d'un escalier pour que le cœur se serre, comme on dit si bien, par un effet d'imagination qui nous coupe le souffle dans le moment même où nous avons besoin de respirer amplement. Et la colère est à proprement parler une sorte de maladie, tout à fait comme est la toux. On peut même considérer la toux comme un type de l'irritation, car elle a bien ses causes dans l'état du corps. Mais aussitôt l'imagination attend l'atout et même la cherche, par une folle idée de se délivrer de son mal en l'exaspérant, comme font ceux qui se grattent. Je sais bien que les animaux aussi se grattent, et jusqu'à se nuire à eux-mêmes. Mais c'est un dangereux privilège de l'homme que de pouvoir, si j'ose dire, se gratter par la seule pensée, et directement par ses passions, exciter son cœur et pousser les ondes du sang ici et là. Passe encore pour les passions. Ne s'en délivre pas qui veut. On n'y peut arriver que par un long détour de doctrine, comme celui qui est assez sage pour ne point rechercher les honneurs, afin de ne pas être entraîné à les désirer. Mais la mauvaise humeur nous lie, nous étouffe et nous étrangle, par ce seul effet que nous nous disposons selon un état du corps qui porte à la tristesse et de façon à entretenir cette tristesse. Celui qui s'ennuie a une manière de s'asseoir, de se lever, de parler, qui est propre à entretenir l'ennui. L'irrité se noue d'une autre manière. Et le découragé détache, je dirais presque dételle, ses muscles autant qu'il peut, bien loin de se donner à lui-même, par quelque action, ce massage énergique dont il a besoin. Réagir contre l'humeur, ce n'est point l'affaire du jugement, il n'y peut rien. Mais il faut changer l'attitude et se donner le mouvement convenable, car nos muscles moteurs sont la seule partie de nous-mêmes sur laquelle nous ayons prise. Sourire, hausser les épaules, sont des manœuvres connues contre les soucis. Et remarquez que ces mouvements si faciles changent aussitôt la circulation viscérale. On peut s'étirer volontairement et se conduire à bâiller, ce qui est la meilleure gymnastique contre l'anxiété et l'impatience. Mais l'impatient n'aura point l'idée de mimer ainsi l'indifférence. De même, il ne viendra pas à l'esprit de celui qui souffre d'insomnie de faire semblant de dormir. Bien au contraire, l'humeur se signifie elle-même à elle-même et ainsi s'entretient. Faute de sagesse, nous courons à politesse, nous cherchons l'obligation de sourire. C'est pourquoi la société des indifférents est tant aimé. 20 avril 1923.